Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, deux bateaux du Sud Kivu interdits de naviguer sur le lac Kivu et le capitaine d'un autre bateau arrêté à Calais. Décision des autorités provinciales. Les propriétaires de ces bateaux sont accusés de violer les mesures édictées par le gouvernement pour sécuriser les personnes et leurs biens. Présentation hier à l'Assemblée nationale de l'économie du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Cependant, les députés nationaux dénoncent les dépassements budgétaires consommés par les institutions du pays. Et puis, la grève des enseignants s'est poursuite dans certaines écoles à travers la RDC. Malgré le mot d'ordre de reprise des cours lancé par leur syndicat, le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, Anapeko, estime qu'il est temps pour le gouvernement de sanctionner les grévistes. Steve Diatezoa est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Sud Kivu. Deux bateaux sont interdits temporairement de navigation sur le lac Kivu et le capitaine du troisième bateau est aux arrêts à Calais. Ces décisions des autorités provinciales font suite à la violation des mesures édictées par le ministre des Transports du gouvernement central. Jean Kassami nous en dit plus.
La suspension concerne les bateaux à Ganze et Izinza. Les autorités provinciales qui annoncent la décision reprochent aux propriétaires de fouler aux pieds les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement central, à savoir l'interdiction de naviguer la nuit, l'utilisation impérative des gilets de sauvetage, le chargement excessif ainsi que la validation du certificat de navigation. Pour le même motif, un capitaine du bateau Gloria est aux arrêts à Kinyeziré dans les territoires de Calais. Un leader du milieu encourage les armateurs à observer les mesures des autorités. Marégane souhaite que les embarcations promises par le chef de l'État soient disponibles pour alléger les transports lacustres sur l'axe Minova Idrigoma.
Je reviens au niveau de quatre bateaux vedettes que le gouvernement avait donné pour le territoire de Calais et le territoire de Yijui. Ces bateaux ont disparu, on ne sait pas comment. En principe, si ces bateaux étaient là, ils pourraient transporter un nombre moyen de gens et à tour de rôle entre Goma Minova. Les quais d'accostage sont là, mais il n'y a pas de bateau alors que c'est une des promesses du chef de l'État.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la présentation hier à l'Assemblée nationale de l'économie du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Selon le ministre des Finances, les dépenses courantes, principalement le fonctionnement des institutions et les rémunérations, ont consommé plus de 70% du budget avec des dépassements budgétaires de plus de 150%. Doudou Fouambalikoundé, qui fait état d'une exécution du budget à environ 92% en recettes et plus de 96% en dépenses, justifie les dépassements budgétaires par le contexte particulier marqué par la tenue des élections générales, la crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire dans laquelle a évolué la RDC en 2023. En réaction, les députés nationaux dénoncent ces dépassements budgétaires de plus de 15 000 milliards de francs congolais consommés par les institutions du pays. Ils se sont exprimés au cours du débat général qui a suivi la présentation de ce projet de loi. Selon l'opposition parlementaire, plus de la moitié des dépenses budgétaires ont été effectuées en procédure d'urgence par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ce qui a occasionné des détournements à grande échelle. Explication Michel Kifindangoy.
Prenant la parole en premier, le président du groupe parlementaire de l'opposition estime que cette reddition des comptes met à nu les détournements orchestrés par le ministre des Finances sortant. Il recommande donc une enquête parlementaire sur les paiements en mode d'urgence exécutés par Nicolas Kazadi et le vote d'une motion de défiance contre le ministre du Budget, Aimé Bogi, pour incompétence. Christian Mwando.
450 milliards de dettes intérieures non certifiées payées en procédure d'urgence, mais on ne paye que 6,96% pour le PDL 145 territoires, programme phare du gouvernement.
Tout en félicitant les membres du gouvernement, la députée Kabouité de l'Union Sacrée déplore la sous-exécution du budget d'investissement.
L'ensemble de nos ressources vont vers la consommation courante des institutions de la République. Comment lutter contre la pauvreté alors qu'on n'investit pas dans un quelconque secteur?
Après environ 10 heures de débat, ce projet de loi, mais aussi le collectif budgétaire 2024, ont été envoyés en commission ECOFIN pour examen approfondi.
Et puis, relancer les activités de Namoya Mining d'ici l'an prochain, mais également créer des zones d'exploitation artisanale. Ce sont là quelques-unes des recommandations de la conférence du Maniema sur les mines, l'énergie et les infrastructures, assise clôturée hier à Kindu. Satisfait de la tenue de ces assises, le gouverneur du Maniema a émis le vœu de voir la mise en place d'une synergie avec les 6 provinces voisines du Maniema dans le cadre des projets d'intérêt commun avec le concours des députés nationaux et sénateurs. Le compte-rendu de Florence Kizalunga.
Après avoir montré toutes les potentialités du Maniema aux investisseurs et à tous les participants, le gouverneur a également recommandé de procéder à la recherche et identification d'une zone économique spéciale pour le Maniema. À toutes les entreprises minières œuvrant au Maniema, l'autorité provinciale recommande le respect strict de la loi relative à la sous-traitance dans le secteur privé. Pour le secteur minier, les chefs de l'exécutif provincial sollicitent au ministre national des Mines de présenter au Conseil des ministres les dossiers de Namoya Mining, car selon lui, la population du Maniema veut voir les mines de Namoya Mining exploitées d'ici 2025. Moussa Kabankoubi recommande aussi le nettoyage du fichier des Kami pour permettre aux vrais investisseurs d'avoir des concessions minières à exploiter, sans oublier de faire un rappel aux entreprises minières sur le respect strict des cahiers de charges en faveur des autochtones. En ce qui concerne l'énergie, les participants recommandent vivement à de matérialiser la signature d'un contrat de gestion avec la Société des techniques spéciales pour les centrales de Rutshuru-Kuru et Ambwe afin que les villes de Kindu, Kalima et Kailo soient électrifiées d'ici une année au plus tard. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Par ailleurs, le gouvernement congolais exprime son engagement à lutter contre le travail des enfants dans l'exploitation artisanale du cobalt et du cuivre. Ceci est contenu dans un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Kapi. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, l'a fait savoir 3 semaines après que le département de travail des États-Unis d'Amérique a ajouté le cobalt de la RDC sur la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants. Blaise Ndongala nous en dit plus.
Dans ce document de 3 pages, le ministre des Mines assure que 95% de la production du cobalt congolais est réalisée conformément aux règles éthiques et sociétaires imposées par les gouvernements et les entreprises cotées en bourse. Kizito Pakabomba a également indiqué que le gouvernement congolais met déjà en place plusieurs initiatives visant à garantir une exploitation respectueuse des droits humains et de la protection de l'environnement. Parmi ces initiatives, les patrons des mines congolaises citent entre autres la formalisation de l'exploitation minière artisanale, la création de la commission interministérielle sur le travail des enfants et les renforcements des contrôles et suivis dans les zones minières. Le ministre des Mines a en outre avoir affirmé que la RDC a retiré depuis quelques mois environ 13 587 enfants des sites miniers sur au moins 16 845 recensés au pays. À cet effet, Kizito Pakabomba a indiqué que ces enfants sortis des mines bénéficient de la prise en charge scolaire, sanitaire, psychologique et de l'enregistrement à l'état civil.
Le 17 octobre, aujourd'hui, le monde célèbre la journée de lutte contre la misère. À cette occasion, Radio Kapi vous propose le quotidien des habitants du village de Mwanga, situé à environ 10 km de Bunia, territoire d'Irumu. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ce village, peuplé en grande partie des retournés et des déplacés, fait face à une misère profonde malgré la résilience de sa population. C'est un reportage signé Jean-Claude Loki.
À Mwanga, la misère est palpable. Les habitants, principalement des retournés, ayant tout perdu lors des attaques des groupes armés, luttent jour et nuit pour subvenir à leurs besoins essentiels. Leur situation, déjà précaire, est aggravée par l'absence d'accès aux ressources agricoles, autrefois essentielles à la survie de la communauté. Jean de Dieu Kabulabo, président des jeunes du village, témoigne de la dureté des conditions de vie à Mwanga.
Il n'est pas facile de trouver à manger ici. Pour l'instant, nous nous démenons, mais ce n'est pas facile de trouver de l'argent, car Ici, notre principale activité, c'est l'agriculture.
La pauvreté dans la région ne découle pas seulement du manque de ressources, mais également des violences armées qui sévissent dans les zones avoisinantes. Isaac Kimbabu, chef du groupement Babulogu, appelle à un soutien urgent des autorités et des organisations humanitaires pour relancer les activités agricoles.
Nous produisons ici du haricot, des manioc, des arachides, du maïs, mais nous aimerions qu'on puisse nous aider avec des tracteurs en vue de booster notre production agricole.
Aujourd'hui, plusieurs villages en Ituri sont plongés dans une pauvreté alarmante, aggravée par l'insécurité qui persiste. Malgré les résiliences, les populations locales continuent à lutter pour la survie dans ces conditions extrêmement difficiles. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les travaux d'assainissement de la ville tels que le débouchage des caniveaux, l'évacuation des déchets et bien d'autres ont débuté depuis quelques semaines dans certaines communes de la capitale. L'hôtel de ville et ses partenaires les font d'une manière progressive. Mais qu'en est-il de l'apport de la population kinoise dans l'assainissement de la ville? Comment l'amener à pérenniser les résultats de ces travaux? Élément de réponse dans ce reportage de Miradim Fouengi.
Cela fait déjà quelques semaines que les travaux de nettoyage ont commencé dans certains quartiers et communes. C'est le cas à Ngiringiri, à Kasavubu, Kalamu et certaines parties d'Engaliema. Ces activités consistent à nettoyer les caniveaux, à retirer les bouteilles et autres objets qui empêchent l'eau de couler normalement. Cependant, au sein de la population, beaucoup semblent indifférents à ces activités. Certains Kinois que nous avons rencontrés décrivent ce problème.
J'ai vu les travaux d'assainissement qui ont été faits ici il n'y a même pas deux semaines. Les immondices commencent déjà.
Le problème, c'est que les gens qui habitent sur le coin des avenues ont pour habitude de jeter leurs poubelles dans les caniveaux.
Certains estiment que c'est le manque d'assainissement efficace dans les communes qui ont amené la population à transformer les caniveaux en dépotoirs.
Les immondices dans les caniveaux ne finiront jamais tant qu'il n'y aura pas de poubelles publiques.
Quand on grandissait, il y avait les services d'assainissement et les poubelles publiques. Mais aujourd'hui, ces services n'existent plus.
Que faire pour emmener la population à changer la mentalité? Yves Bolombello, ancien cadre de l'environnement, suggère ceci.
Que l'exécutif provincial intensifie la sensibilisation de la population, mais également l'application des sanctions.
C'est vendredi dernier que tous les bourgmestres devaient remettre chacun le plan de développement de sa commune à l'hôtel des villes.
Direction le Nord Kivu. Au moins 80 ex-combattants démobilisés et jeunes à risque sont cette semaine dans la phase finale de leur formation de réinsertion socio-économique. Ils sont au terme de 3 mois d'une formation en réparation de téléphones mobiles à Goma. La formation assurée par l'entreprise Nokia Asbel est financée par la MONUSCO à travers le Fonds de réduction des violences communautaires sévères. Bernardin Nyangi a visité ce projet. Voici son reportage.
Ce sont en tout 45 garçons et 35 filles désœuvrés ou sortis il y a quelques années des forces et groupes armés. Après 3 mois de formation théorique et pratique, ils vont maintenant être déployés par nombre de 8 pour former 10 ateliers. Tout le matériel nécessaire pour leur insertion sont déjà disponibles. Ces jeunes qui étaient déjà dans l'incertitude ne peuvent plus cacher leur joie. Témoignage.
Je serai dans mon atelier où je serai rémunéré, ce qui m'évitera des problèmes de l'oisiveté au quartier. Je vais dire merci à la MONUSCO.
Le coordonnateur provincial adjoint du programme PDDRCS chargé des opérations encourage cette initiative de la MONUSCO qui, pour lui, est un modèle très pratique de réinsertion communautaire.
Ces jeunes gens vont entrer maintenant dans la communauté avec un bagage, un métier qui va aider leur famille. Et demain, ils vont se retrouver dans la vie et n'auront plus encore besoin de rentrer dans la forêt. Voilà ce qui est très important dans ce projet.
Après le déploiement de ces jeunes, un suivi et accompagnement sur le terrain sont prévus pour se rassurer de leur bonne évolution. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Les FARDC annoncent avoir tué 2 leaders du groupe armé ADF. C'était lors des opérations conjointes avec l'armée ougandaise menées depuis le week-end dernier dans le secteur de Bapéré, territoire de Lubero. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FARDC qui livre l'information évoque 2 combattants impliqués dans les actions des ADF. Le colonel Makazukai appelle la population à éviter la zone des opérations militaires. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Les forces de la coalition FARDC-UPDF sont en opération dans le secteur des Bapéré. Elles ont intensifié et multiplié la pression sur l'ennemi qui s'était retiré dans cette partie. Le week-end dernier, il y a eu des affrontements et nous avions annoncé qu'il y avait des leaders qui ont été neutralisés. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que parmi les combattants d'UPDF qui ont été neutralisés, il y a deux leaders, notamment Mzé Moussa, qui est chargé des reconnaissances de localités dans lesquelles ils font des incursions, et aussi Jaffa, alias Mouhadari, qui lui est chargé de ravitaillement de ce Onlaloi. On a les images et toutes les preuves que ce sont ces deux leaders qui étaient neutralisés. L'ennemi est sérieusement traqué et c'est imprudent de fréquenter les zones où se déroulent les opérations.
Actualité internationale. Au moins un mort et deux personnes portées disparues. Bilan provisoire du naufrage d'un bateau en bois transportant 100 migrants au sud de la petite île grecque de Gavdos, déclarent les gardes-côtes grecs. Au total, 97 personnes ont été secourues par un cargo qui passait par là et ont été amenées vers la ville d'Héraklion sur l'île de Crète, ont indiqué les autorités. Le Zimbabwe annonce qu'il va indemniser les agriculteurs blancs, locaux et étrangers qui ont perdu leurs terres et leurs biens il y a plus de 20 ans lors des saisies agricoles destinées à réparer certains des torts causés par le colonialisme. Environ 4000 fermiers blancs ont perdu leurs maisons et des pans entiers des terres lorsque le président honoraire Robert Mugabe a lancé en 2000 le programme de redistribution souvent chaotique qui a parfois tourné à la violence.
L'invité.
Le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, Anapeko, appelle le gouvernement à sanctionner les enseignants grévistes qui, selon lui, sont manipulés par une main noire. Steve Diatezoua l'a dit hier dans un entretien à Radio Kapi. Il estime que plus de 80% des écoles publiques suivent normalement les cours depuis la rentrée scolaire et estime qu'il est temps que le gouvernement mette hors d'état de nuire ces enseignants grévistes qui résistent aux mots d'ordre de reprise des cours lancés par leur syndicat. Steve Diatezoua est avec Alain.
Monsieur Steve Diatezoua, bonjour. Oui. Vous êtes président de l'Association nationale des parents et élèves du Congo. Quel bilan d'abord dressez-vous de ces écoles qui étudient et qui n'étudient pas pour l'instant depuis la rentrée scolaire?
Au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de constater que la grande majorité d'écoles ont reçu nos enfants et que les élèves sont en train d'étudier. Il est resté des poches résiduaires où des enseignants se disant syndicalistes sont radicalisés poursuivant d'autres objectifs que l'objectif de grève. Parce que je sais que les vrais leaders syndicaux, les grands syndicats installés dans le pays ont donné le mot d'ordre de suspendre la grève et tous les enseignants sont à l'école. Mais ceux-là qui sont instrumentalisés par des mains noires veulent continuer à sécher le travail et c'est ce que nous déplorons en tant que parents et responsables. Et donc, à ceux-là, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que on ne peut pas payer les gens qui refusent de travailler, les mêmes gens-là qui partent à l'école prendre des avances sur les frais payés par les parents et sans qu'en contrepartie, ils ne puissent se prester. Ça, c'est voler l'argent des parents. Si déjà en amont, ils volent l'argent de l'État, mais l'argent des parents n'est donné que pour ceux qui travaillent. Pas pour ceux qui ne travaillent pas, qui viennent prendre l'argent des parents sans travailler. À ceux-là, je dis de cesser d'aller faire cette escroquerie, sinon ils auront les parents derrière leur dos.
Est-ce que vous avez appris au niveau de l'ANAPECO qu'il y a certaines écoles qui ont repris avec la contribution des parents qui payent pour que les enseignants donnent cours, mais sous d'autres appellations, dons, legs, assistance, mais c'est vraiment la contribution des parents qui a repris. Est-ce que l'ANAPECO est au courant?
En tout cas, formellement, nous ne sommes pas au courant, mais nous en avons entendu parler par justement ces fameux grévistes qui dénoncent eux-mêmes certaines écoles d'une confession religieuse qui auraient repris cette pratique honteuse et incivique. Et j'ai demandé aux présidents provinciaux de descendre à la base pour identifier ces écoles-là. Elles devront être sanctionnées. Si ce sont des écoles de la gratuité, du niveau primaire, public, où se pratique cela, il faudra des sanctions graves et exemplaires, quelle que soit la confession religieuse d'origine qui pratiquerait ces choses-là abominables.
Monsieur Diatézoa, avez-vous aussi appris qu'il y a des écoles où des enseignants reçoivent les élèves, mais les gardent dans la classe sans donner cours? Est-ce que vous avez aussi appris ça?
Là, je ne suis pas certain d'avoir reçu ce genre d'informations, mais si tel était le cas, eh bien, ce sont les chefs d'établissement qui doivent être sanctionnés. Les chefs d'établissement doivent faire leur travail de supervision et non favoriser de pareilles attitudes.
Pour terminer, il y a une commission interministérielle qui a été mise en place depuis lundi, qui va travailler avec les syndicats des enseignants pour harmoniser toujours et mettre fin définitivement à cette question de grève. Quel est votre souhait en tant que parent?
Je suis très content que pareille commission ait été mise en place et je conseille au gouvernement d'exécuter sa part de devoir sur ce qu'ils se sont entendus avec les enseignants. Que l'État paye ce qu'il a promis aux enseignants et comme ça, la situation sera totalement décantée. Donc, j'encourage le fonctionnement de cette commission qui a été mise en place.
Merci beaucoup, Monsieur Steve Diatézoa.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur le journaliste.
Notre invité répondait aux questions de Alain Rongmoshinj. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.